Vive les vacances! S'il faut attendre la fin du mois pour jeter les cahiers au feu et les livres au milieu, dès les premiers jours, juin sent bien le sable chaud. Mais aussi les départs vers des contrées exotiques. C'est le 6 juin 1939 que l'aéroport international de Beyrouth, EB, est officiellement inauguré et en grande pompe. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, plus de 1000 personnalités représentant plus de 11 pays assistent à la cérémonie durant laquelle des avions font une démonstration. Trois pistes asphaltées sont ainsi prêtes pour emmener les Libanais explorer le monde. Bien des années plus tard, le 30 juin 1972, le Concorde II, deuxième prototype de l'avion supersonique, atterrira à l'Eb dans un vol de démonstration devant une foule subjuguée. Toujours dans le domaine des transports, c'est un salon de l'automobile qui attire les amateurs. Inauguré par le président Camille Chamoun, le 18 juin 1955, dans le jardin de Sanayet, le salon réunit plus de 80 modèles, dont une Oldsmobile qui a comme atout inédit la climatisation. Une première. En juin 1959, les fouilles vont bon train à Anjard et mettent au jour toute une cité omeyyade fortifiée. Palais, bains et jardins font le bonheur du conservateur des antiquités, l'émir Maurice Chehab. Anjard fut fille d'Omeyyade, amie des caravanes et songe des nomades. Nadia Tuni. Cette cité sera classée en 1984 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est dans le souk Abou Nasr qu'est découvert en juin 1965 un temple datant de l'époque romaine. Il reste trois colonnes en bon état de ce monument baptisé Temple de la Fortune du nom de la déesse Fortuna. Durant ce mois également, et la même année, le temple d'Ekmoun révèle encore ses splendeurs, avec un bas-relief qui parle de chasse et des statuettes d'enfants guéris par le dieu guérisseur des Phéniciens et qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ. L'énorme chantier de fouilles, qui a pris place en 1995 et auquel ont participé des architectes venus du monde entier, révèle bien des surprises. Des pièces de silex, qui attestent de la présence d'hommes du temps de la préhistoire et les traces d'une cité hellénistique. Sortant de Beyrouth direction Baalbek, où deux sarcophages romains sont découverts en juin 1996 lors d'excavations pour installer des câbles du réseau téléphonique. Côté art, le mois de juin est le mois des derniers événements artistiques avant les grandes vacances. Le 12 juin 1962, Paul Giragossian expose à l'Orient ses dernières œuvres très appréciées du public. Le 15 juin 1966 disparaît Boris Novikov, une grande figure de l'art au Liban et qui avait reçu les insignes de l'ordre du Cèdre pour son apport au développement artistique. Juin 1968 verra deux manifestations importantes, à savoir une exposition de peinture d'artistes libanais à Dar el Fan suivie d'une conférence de Leila Hafé, Maurice Sacre et Aref Reyes, mais également le 12 du mois, et à l'initiative de Mona Bassili et Leila Khalidi à Montmartre libanais. L'escalier de la rue Bliss sera envahi de couleurs, de toiles et de sculptures pour le plus grand plaisir de tous. Le 1er juin 1970, le premier salon des peintres arméniens du Moyen-Orient se tient à l'hôtel Phoenicia, avec plus de 36 artistes dont Seta Manoukian, Sophie Yeremian, Rare et Torossian. Le premier prix est remporté par Krikor Norikian et le second prix par Djon Adidian. Le 1er juin 1971, Dar el Fan encore et toujours présente, les estampes de Hokusai du Mont Fuji. Le 3 juin de la même année, Solange Tarazi expose ses œuvres pleines de lumière à Téhéran, où elle remporte un plein succès. Elle exposera également au Maroc en juin 1973. Toujours en juin 1971, la première Biennale des antiquaires se tient dans la salle d'exposition du Conseil national du tourisme et rassemble plus de 20 exposants. Le Liban pleure le grand écrivain et journaliste Maroun Abou, qui s'est éteint le 3 juin 1962. L'année suivante, une exposition du livre libanais est organisée à la librairie Julliard à Paris. Nos auteurs s'exportent. Le 22 juin 1964, René Habachi, philosophe et essayiste, se voit attribuer le prix Jean Enrouche pour le meilleur écrivain méditerranéen de l'année 1964. Deux ans plus tard, en juin 1966, c'est la grande André Chédy qui reçoit le prix Louis Labbé pour son recueil Double Pays. Une belle exposition à la librairie du Liban en juin 1971 présente une collection de livres, cartes et gravures sur l'histoire de la région. On n'oubliera pas Nadia Tuni, qui nous a quittés le 20 juin 1983, mais dont les écrits pleins de beauté feront partie du patrimoine, comme des mots éternels. Son dernier recueil, Liban, 20 poèmes pour un amour tiré mon pays mon visage, la haine et puis l'amour, naissent à la façon dont on se tend la main tiré montre bien le désarroi qui était celui des poètes, quand la guerre n'a aucune pudeur. Magnifique Nadia Tuni dont le visage, les mots, le talent et la tendresse ne vieilliront jamais. L'instant présent s'écaille-t-elle une vieille peau? Nous atteindrons par contre la dimension du vent. Avec ce paysage qui dort au fond des mots. Bernard Pivot profite du silence des canons pour venir présenter le 8 juin 1994 du Liban son bouillon de culture, avec Amin Maalouf comme invité principal. Le même Maalouf qui fera son entrée le 23 juin 2011 à l'Académie française. Mais n'oublions pas la magnifique exposition du musée Sursoc en juin 1999 et qui présentait une trentaine de manuscrits de grande valeur qui font partie du fonds de la Bibliothèque nationale qui avait grandement souffert des conditions déplorables d'entreposage. Du côté des médias, la nouvelle station émettrice située à Anchi permettra à Radio Liban à partir de juin 1962 d'atteindre les Libanais dans les pays d'émigration. Une grande date dans le monde de la presse avec, le 15 juin 1971, la fusion de L'Orient et Le Jour. L'Orient Le Jour, qui paraîtra sur 16 pages, aura pour directeur de publication Georges Nakache et Jean Chouéry, et comme rédacteur en chef Édouard Saab, assisté de Lucien Georges. Le début d'une solide aventure. Le mois de juin pourtant ne réserve pas que de bonnes surprises pour la presse. Le 2 juin 2005, Samir Kassir est victime d'un odieux attentat. Ses mots percutants, son analyse sans concession lui coûteront la vie. Il laissera derrière lui des éditoriaux, dont on ne se lasse pas, une magistrale histoire de Beyrouth et toute une génération de jeunes qui le prennent pour modèle. Et le 8 juin 2012, debout jusqu'à la fin, Ghassan Tunis s'en ira à l'âge de 86 ans après un parcours des plus remarquables. Patron d'En Nahar et de la maison d'édition d'art En Nahar, politicien sans concession, auteur de plusieurs livres politiques et historiques, victime de drames familiaux insoutenables, Ghassan Tunis est une légende.